culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour à tous, bienvenue à Sculpt. Déjà, je voudrais savoir comment vous allez.
Bien.
Ça va bien? On dirait pas ça va ou ça va pas?
Si, si, ça va.
Très bien.
Et toi, ça va?
Ça va, merci. Ouais, alors comme vous pouvez voir, je suis bien entouré aujourd'hui. J'espère que vous êtes contente que je sois là aussi.
Bien sûr.
Ouais, voilà. Et on n'est pas toujours aussi bien entouré. Alors, j'aimerais parler de ces moments où on ne l'est pas tant que ça et qui parlent donc de la solitude. Mildred, tu voudrais commencer avec la chronique Dieu dans ma semaine?
Oui, exactement. Alors, cette semaine, je me suis posé quelques questions. Et du coup, je vous pose aussi quelques questions. Hein. Je ne vais pas souffrir toute seule. Que ferais-tu si tous les jours, tu recevais 86 400 francs à dépenser?
Je me ferais plaisir.
86 000 quand même.
Ça fait quand même beaucoup d'argent. Il faut trouver des idées tous les jours. Hein.
Voilà. Mmh. Et petite règle du jeu, tu ne peux pas garder cette somme pour le lendemain. Il faut tout dépenser le jour même. Il faudrait utiliser dans sa totalité chaque jour. Rien garder, même pas un centime pour le jour d'après. Que pourrais-tu acheter avec une telle somme, David?
Ça.
Des voitures, des voyages, des biens immobiliers? Pourquoi pas? Mais s'acheter une voiture tous les jours, tu finirais peut-être par t'en lasser. Alors, pourquoi ne pas faire de donations? Aider les personnes en difficulté, c'est tellement honorable. La bonne nouvelle, cher ami, est que nous recevons chaque jour 86 400 secondes de vie. C'est un vrai cadeau. Sans aucun doute, le temps est le bien le plus précieux que nous avons. Et le temps que nous recevons aujourd'hui, nous ne pouvons pas le garder pour demain. Même pas une seconde. Oui, j'ai pris du temps pour réfléchir à la façon dont se déroulent mes journées et sur la façon dont la société considère le temps. J'aimerais ici nous pousser à faire un petit bilan. Juste, je vais nous poser quelques questions. L'objectif n'est pas de nous culpabiliser, mais tout simplement de réfléchir ensemble. De quelle façon utilises-tu le temps que tu reçois? Quelles sont tes priorités? Prends-tu le temps de vivre, de te reposer? Nous avons parfois l'impression de ne pas avoir 2 secondes de libre. Pourtant, nous consacrons du temps à regarder des séries, nous consacrons du temps à la moindre actualité de notre club de foot, par exemple, ou autre sport, ou encore à regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux, par exemple. Je t'invite à saisir chaque instant, chaque occasion de ta vie, que ce soit avec les amis, avec la famille, au travail, vis intensément et avec sagesse tous les moments qui sont mis à ta disposition. Valorise chaque seconde de ta vie tant que nous avons encore du temps. Comme le disait le sage roi Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Notre vie doit être équilibrée, notamment quand il s'agit du temps. Voici une phrase assez connue et qui circule sur Internet, hein, vous pourrez la trouver facilement. Elle dit comme ça: « Hier appartient à l'histoire, demain c'est un mystère et aujourd'hui c'est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle présent. » Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de remercier Dieu pour chaque lever du soleil. Il est temps de passer du temps de qualité avec les personnes qui nous entourent, avec nos familles, avec nos amis, avec Dieu et avec notre conjoint.
Merci pour cette belle pensée du jour. Je voudrais, moi, partager avec vous une promesse pour aujourd'hui. Et elle se trouve dans Ésaïe, au chapitre 43, au verset 19. Elle nous parle du peuple d'Israël, à cette époque où ça a été écrit. En fait, le peuple d'Israël est en exil, il est à Babylone, loin de son pays. Un grand désert le sépare de son pays. Et dans ce chapitre, le prophète Ésaïe parle comme si Dieu parlait à son peuple pour lui dire ben, il y aura un retour, il y aura quelque chose qui va se repasser. Mais en même temps, comme il y a un grand désert entre les deux, il parle aussi de cette traversée du désert. En tout cas, il dit ceci. « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude aride. » Pour traverser un désert dans lequel il n'y a personne, il faut mieux avoir un chemin sûr et des approvisionnements en eau, sinon on finit pas. Et je vois dans cette promesse de Dieu, un Dieu qui se propose d'être pour son peuple et pour nous aujourd'hui, un guide et un pourvoyeur dans ces solitudes solitaires et sèches que l'on peut avoir à traverser. Alors, il y a une autre chose. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand il y a des fleuves dans un désert ? En général, il y a des fleurs, des arbres, de la végétation qui fleurit. Et cette pensée du jour, elle m'invite aussi à laisser la source d'eau vive qui est Jésus. Il se présente ainsi dans sa rencontre avec la Samaritaine dans les évangiles. Que Jésus, cette source, puisse traverser nos déserts, ces périodes de solitude, ces moments voilà, où on n'est pas aussi bien accompagné que ce qu'on aurait besoin. Cette présence, tout comme l'eau dans le désert, aura un effet collatéral. Les fleurs pourront fleurir le long de la route. C'est la présence de l'eau ou de Jésus dans notre solitude qui produira cela.
Merci Marilyn de nous rappeler que Dieu est celui qui nous ressource. Et le chant que nous allons entendre, « Tu es ma source » de Dan Lutton, nous parle de ça.
Tu me relèves de la boue.
est notre source. Chère équipe et chers auditeurs, je vais vous présenter Joëlle Kutama, une jeune femme dynamique, auteure, compositeur et interprète. Pendant toute cette période de pandémie, elle n'a pas arrêté et actuellement, elle nous fait déguster de belles chansons. Elle a accepté de donner un témoignage sur la chanson « Je l'aurai encore ». Joëlle a souhaité chanter et offrir cette chanson tout d'abord à Dieu, à sa communauté et à tous ceux qui ont besoin d'une parole d'encouragement. Écoutons son témoignage. Joëlle, comment as-tu découvert cette belle chanson « Je l'aurai encore » ?
Alors, j'ai découvert cette chanson l'année dernière, donc en 2020. Et c'était au tout début de la période de Covid. J'écoutais une playlist, en fait, de chansons chrétiennes sur Spotify. Et je suis tombée sur cette chanson et elle m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a beaucoup réconfortée parce que c'était une période un peu, bah, je dirais un peu bizarre pour tout le monde. Hein,
ah, c'est sûr.
Parce qu'on entrait dans le, Covid, on ne savait pas trop dans quoi on allait. Moi, personnellement, j'étais déjà au chômage à ce moment-là.
Ok.
Et donc, je cherchais du travail et puis je voyais qu'en fait, les perspectives de trouver un emploi alors qu'il y avait le Covid qui arrivait était très très mince et puis il y avait aussi des petites peurs quant au lendemain et puis la solitude qui s'installait puisque toute ma famille se trouve à Paris et puis que là finalement je me retrouvais seule à pas pouvoir aller voir ma famille et puis
loin de la famille sans emploi.
Oui.
Mais tu as trouvé une belle chanson.
Mais j'ai trouvé cette chanson qui m'a fait beaucoup de bien. Les paroles sont très profondes. Et c'est vrai que j'étais aussi sur un chemin où je me disais que je voulais vraiment m'investir dans la louange et vraiment donner plus de temps à Dieu pour ça. Et aussi, moi, me repositionner par rapport à mes projets de vie. Et puis, c'est vrai que l'année 2020, du coup, m'a permis de vraiment réfléchir à tout ça. Et depuis le tout début de l'année 2020, je réfléchissais à mon positionnement par rapport à la musique et à ce que Dieu m'avait donné, le don qu'il m'avait donné. Et à la volonté de vraiment le mettre au service de mon église, des personnes autour de moi. Et en fait, cette chanson, c'est vrai que le premier couplet est vraiment très fort puisqu'il dit « Parfois, une chanson semble si coûteuse et l'adoration prend tout ce que j'ai. Dans les saisons de la vie où il est difficile de voir et difficile de comprendre que tu es toujours Dieu dans le désert, tu es toujours Dieu dans la douleur. » Tu es le Dieu qui est avec moi. Quand tout le reste est vain, je louerai encore.
Wow.
Et voilà, ça a été vraiment... Cette chanson, quand je l'ai découverte, ça a été... clairement, elle m'a porté. Ouais, les moments où j'arrivais plus à prier ou les moments où j'étais un peu découragée.
C'est vrai que ce n'est pas simple d'être dans le désert, dans la tristesse, dans la solitude et finalement avoir cette force de louer toujours Dieu.
Bah c'est vrai que parfois, on est humain, donc même quand on prie, parfois on est même déconnecté, même en priant. Enfin, il y a quelque chose qui s'est tellement installé ou il y a quelque chose qui est tellement de l'ordre de l'incompréhension, en fait. On ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi on galère à ce moment-là. On fait confiance à Dieu, on sait qu'il est là, mais il y a des moments où juste... on n'a plus la force. Et c'est vrai que, moi en tout cas dans mon expérience de foi, de vie chrétienne, de vie avec Dieu, il a toujours mis à des moments de ma vie des chansons qui m'ont accompagnée sur une année, sur plusieurs années. Et dans les moments où j'arrive plus à prier, il y a toujours une chanson. Et là, dans les moments où j'arrivais pas forcément à avoir la force de me dire « Allez, je prends un texte ou je prie, je prends ce temps-là », bah, c'est facile d'aller sur Spotify finalement, d'allumer les baffes et de mettre de la musique.
Bah, on dirait que Dieu touche vraiment chacun là où il est plus sensible.
Exactement.
Toi, comme tu es musicienne,
exactement.
Tu es auteur.
Exactement. Et du coup, bah, y a des moments où j'arrivais plus à peut-être moi chanter, mais le fait de mettre cette chanson, déjà ça remplissait l'espace. Mmh. Et donc je sentais que j'étais pas toute seule. Je me sentais vraiment accompagnée par Dieu, par ses anges. Et
entourée, en sécurité.
Voilà, rassurée. Et les paroles, en fait, de cette chanson étaient tellement pour moi. Je me suis dit, si cette fille a chanté ça, c'est qu'elle est passée par là aussi. Donc, c'est Lucy Grimble, une artiste américaine, chrétienne. Et donc, du coup, je me suis dit, si elle a écrit ça, c'est qu'elle elle l'a elle-même vécu. Et elle a voulu le donner aux autres aussi. Et en fait, moi, je me suis dit, bah, moi aussi, ça me parle. Et moi aussi, finalement, je suis nourrie par ça. Et finalement, je me suis dit, c'est fou comme elle est loin, je la connais pas. Enfin, quoi que maintenant, je la connais par Instagram. Hein, comme quoi, tout est possible. Mais voilà, à la base, je la connaissais pas, elle me connaissait pas. Et pourtant, les paroles l'ont touchée, elle, et m'ont touchée, moi. Et l'ont touchée certainement d'autres personnes. Et je me suis dit, c'est fou comment Dieu donne aux personnes l'inspiration, donne à des personnes vraiment ce don, ce talent pour toucher les cœurs et pour qu'à des moments où peut-être on se sent mal, on n'arrive plus ou voilà, eh ben on a ces paroles qui nous redonnent la force, parce que vraiment ce chant dit aussi, le deuxième couplet est vraiment beau parce que ça dit « Si douce est la chanson que je ne peux que chanter, ici dans un endroit stérile, si tendre est la louange que je ne peux que donner, ici dans ma douleur terrestre. » Quand mon cœur est brisé en morceaux et que je n'ai pas grand-chose à apporter, avec tout ce qu'il me reste, je vais adorer et t'offrir cette offrande. Et voilà, dans les moments où on lâche un peu, où on est un peu désemparé ou désespéré, en tout cas moi, à ce moment-là, dans cette année 2020 qui a été autant un désert que quelque part un fleuve incroyable au niveau spirituel, eh ben, cette chanson m'a vraiment portée, vraiment portée. Ouais.
Alors, laisse un petit message à nos auditeurs.
Eh bien, j'ai envie de laisser en message aux auditeurs que dans tout ce qu'on peut vivre, dans tout ce qu'on peut traverser, c'est important de dire à Dieu qu'on l'aime encore, qu'on l'aime toujours, même quand on ne voit pas ce qui se passe. Parce que, en fait, c'est vraiment une relation avec Dieu. Il comprend que parfois c'est comme une relation amoureuse ou une relation amicale, parfois on n'est pas disponible, parfois on ne sait pas ce qui se passe, parfois on se sent seul. Mais dans tout ce qu'on peut passer, s'il y a bien une seule personne, un seul être qui peut nous comprendre, nous accompagner, nous soulager, nous porter, c'est Dieu. Et je crois que c'est toujours important d'une manière ou d'une autre qu'il y ait cette louange qui nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Voilà.
Merci beaucoup, Joël. Que Dieu t'accompagne.
Amen.
Et grand succès, que tu puisses continuer à apporter cette joie et que tu sois toujours béni.
Merci. Gloire à Dieu. Merci.
Sometimes a song feels so costly and worship takes all that I have. In seasons of life where it's hard to see and hard to understand that you are still God in the wilderness, you are still God in the pain. You are the God that is with me when all else is stripped away. Still I will praise, still I will praise, even in this, oh Lord, still I will praise. So sweet is a song I can only sing here in the barren place. Praise I can only give here in my earthly pain. When my heart is broken in pieces and I don't have much to bring, with all I have left I will worship and give you this suffering. Still I will pray.
even when I cannot see you, even when I feel so lost, even then you are still faithful, even then you still be God. Still I will pray. With my God, there I will know I have always been held in the arms of love.
Voilà un témoignage encourageant de Joëlle Koutama et une belle interprétation qu'elle nous offre de ce chant qui lui a fait du bien dans cette saison complexe qu'elle a pu traverser. Alors ça nous apporte une belle introduction de ce thème de la solitude que nous allons aborder aujourd'hui. La solitude, comment est-ce qu'on la définit ? Alors peut-être d'abord le fait de ne pas avoir de rapports sociaux, ou pas en suffisance en tout cas. Ça génère alors un sentiment d'isolement, de manque qui peut conduire à une tristesse, mais même parfois à une dépression. Certains isolements peuvent être choisis, comme les personnes qu'on peut connaître, qui partent vivre des pèlerinages en quête de soi, en quête de spiritualité, de sens à la vie aussi. Mais les isolements peuvent être aussi subis. Et dans ce cas, ces solitudes deviennent complexes à vivre. La solitude peut venir à nous de différentes manières, que ce soit une perte de travail, un couple qui se sépare tout à coup et puis on se retrouve seul. C'est la même chose d'ailleurs pour le deuil d'un conjoint, une maladie, un déménagement dans une région où l'on ne connaît personne. L'âge aussi, on dit que les personnes âgées sont souvent isolées. Une addiction aux médias, téléphones, jeux, réseaux sociaux, etc. qui peuvent nous isoler des autres finalement. Une perte de grossesse qui nous a fait tellement de mal qu'on s'isole pour oublier, pour ne pas avoir à expliquer. Et puis enfin des événements qui surgissent sans qu'on s'y attende. Comme nous en parlait Joëlle, le Covid. Et c'est vrai qu'on en parle peu des effets secondaires de cette pandémie. Le journal Le Temps a publié un article tout à fait intéressant, qui s'intitulait « Le coût ignoré des restrictions de liberté durant le Covid ». Et on parle ici des coûts psychologiques, sociaux, scolaires, et puis enfin d'un coût économique. Et oui, les restrictions sanitaires ont placé bon nombre de personnes en isolement, bien malgré elles. Et ça a été une période difficile à vivre pour beaucoup. Tout récemment, un ami partageait sur les réseaux sociaux cette petite phrase « La tristitude, deux points, célibataire, plus solitude extrême, plus couvre-feu, plus masque. Et ce soir, mon ordi qui rend l'âme. » C'est
complètement
terrible.
Complètement sale.
Terrible, ouais. Alors nous allons voir aujourd'hui ce que dit la Bible sur ce thème. Nous irons ensuite rencontrer trois personnages bibliques, peut-être même un peu plus, qui ont vécu la solitude et nous en retirerons quelques pistes pour nous aider à faire face à ce sentiment difficile que l'on peut traverser parfois dans notre vie. Que dit la Bible d'abord sur la solitude ? Eh bien, le premier texte qui me vient en tête se trouve au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 18. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Bon, ça paraît assez clair. « Je lui ferai une aide semblable à lui. » Voilà ce que j'en comprends, c'est que ce n'est pas dans notre nature d'être seul. Dieu lui-même dit que ce n'est pas bon pour nous. Dieu fait de nous des êtres sociaux, aimants, communicants. Il est donc tout naturel que nous traversions des moments inconfortables lorsque nous sommes face à une période de solitude. Alors nous allons prendre le temps de parcourir la vie de ces trois personnages bibliques qui ont vécu une période de solitude. Mildred, vers quel personnage tu nous conduis ?
Alors Marina, le fait de se sentir seule existe depuis fort longtemps. Plusieurs personnages bibliques ont souffert de la solitude. Je pense à Paul, à Job, à Élie et aussi à Jésus. Mais le personnage que j'ai choisi est Joseph. Pour nous rappeler un petit peu, Joseph était le 11e enfant de Jacob. Il a été élevé comme enfant préféré de son père, cela parce que la maman de Joseph était la femme préférée de Jacob. Une histoire un petit peu compliquée. Le fait que Joseph recevait un traitement différencié de la part de son père lui a apporté aussi beaucoup de soucis. Pour faire court, ses grands frères le détestaient, tout simplement. Comme si cela ne suffisait pas, Dieu a montré à Joseph, par quelques rêves, les projets qu'il avait mis en place pour lui. Dans sa naïveté ou peut-être par manque d'expérience, Joseph a commencé à raconter à tout le monde, à toute sa famille, comment les choses allaient se passer. Et clairement, ses frères n'aimaient pas du tout ça, et son père non plus. Et voilà que Joseph, quand il avait 17 ans, ses frères, dominés par la jalousie, ont prémédité sa mort. Mais finalement, ils se sont désistés et ils l'ont juste vendu comme esclave. Si on peut dire juste, hein, c'est déjà...
Ouais, c'est assez violent quand même.
C'est très violent.
Relation fraternelle.
Compliqué. Alors Joseph a été emmené comme esclave en Égypte. Là-bas, il se retrouvait tout seul, dans un pays étranger, loin de son père et loin de tout ce qu'il connaissait. Et en plus, son papa le croyait mort.
Ça me fait penser un peu, quand j'entends cette histoire de Joseph, au fait que quand ils l'ont jeté dans le puits, pour qu'il se... bon, dans le puits, dans le trou qu'il était, pour devenir esclave ensuite, quand ils l'ont vendu, est-ce qu'il ne s'est pas aussi senti coupable lui-même de quelque chose peut-être ? Que parfois on pourrait sentir coupable quand il se passe quelque chose comme ça. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour finir seul ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de travers ou pas ? Après, dans ce cas, dans cette histoire, on peut voir clairement que la solitude de Joseph, elle a été provoquée par le péché des frères, qui était l'orgueil. Ils n'ont pas compris quelque chose que Dieu voulait pour lui, et l'orgueil les a poussés à faire ça. Maintenant, ce n'est pas une mauvaise chose d'analyser, voir si est-ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas fait. Mais je pense que c'est important... Quand on voit ce genre d'histoire, de comprendre que Dieu, parfois, il va nous donner une vision individuelle. Pas tout le temps. Des fois, il va utiliser le groupe. Mais parfois, il va nous parler à nous d'une façon que seulement nous, on peut comprendre. Et la manière de l'expliquer aux autres, peut-être que ça va déranger, peut-être que ça va écarter les gens, peut-être que ça va les rapprocher, que ça dépend aussi de leur relation avec Dieu, de comment ils prennent les choses. Et nous, notre relation, c'est comment on transmet la chose. Mais pour ça, je pense que franchement, il faut qu'on mette l'amour avant tout pour qu'on soit capable d'écouter, d'enseigner, d'apprendre, de s'humilier et puis d'avancer pour toujours rester unis. Toujours avancer en restant unis.
Ouais, c'est vrai. Par contre, pour Joseph, à ce moment-là, il ne ressentait pas beaucoup d'amour, j'imagine. Hein, voilà. Parce qu'il était rejeté par ses frères, il a été jeté dans un puits, ensuite vendu comme esclave. Alors, tout était très clair. Il voyait clairement que ses frères le détestaient. À mon avis, à ce moment-là, il avait toutes les raisons du monde pour tomber dans la solitude. Mais il aurait pu imaginer que même son Dieu l'avait abandonné. Mais non, il a décidé de garder confiance en Dieu.
Par contre, après, il s'est quand même rendu compte, c'est quand même pas mal qu'on voit qu'il a été vendu par les vendeurs d'esclaves, bon, par les acheteurs d'esclaves, et ensuite c'était vendeur d'esclaves, évidemment, à un homme super puissant qui était Potiphar, qui était un homme vraiment de confiance du pharaon. Donc ça ouvre quand même des portes, même dans l'esclavage. C'est quand même quelque chose. C'est un peu dingue de le dire comme ça, mais c'est quand même des portes ouvertes dans le mauvais, quoi.
Ouais, ouais. Les choses auraient pu vraiment s'améliorer pour lui, mais ce n'était pas encore le bon moment, visiblement. Hein. Parce que malheureusement, il arrive chez Potiphar et sa femme, la femme de Potiphar, donc, tombe complètement amoureuse de Joseph. Mais donc, elle faisait des appels sexuels et lui, il n'a pas voulu savoir de tout ça. Il a refusé et il a été accusé injustement de viol. Et suite à cela, il a été jeté en prison. Encore une fois, Joseph se trouve dans une situation très compliquée, hein, on peut le dire. Enfin, on va un petit peu vite dans cette histoire parce qu'elle est très longue. Mais toi, cher auditeur, si tu souhaites la lire dans son intégralité, n'hésite pas d'aller dans ta Bible, dans le livre de Genèse, de chapitre 37 à 50. Donc Joseph restera longtemps en prison, en tout cas plus de 2 ans, hein, c'est ce qui a marqué. Joseph avait un don. Heureusement, il savait interpréter les rêves. Ça veut dire Dieu lui donnait ce don-là. Le pharaon était tourmenté par des rêves et Joseph les lui a expliqués. Cela lui a permis de sortir de prison pour devenir rien d'autre que le gouverneur de l'Égypte.
Ouais, quelle remontée, c'est incroyable.
Non, c'est vraiment fantastique. Il était en prison et tout d'un coup, il est gouverneur de l'Égypte.
Encore plus fort que Barça PSG, la remontada.
Le temps passe et Joseph, toujours inspiré par Dieu, résout les problèmes de la famine en Égypte et aussi dans les pays voisins. Parce que quand il y avait la famine, les pays des alentours venaient acheter de la nourriture en Égypte. Et c'est de cette façon que ses frères aussi viennent en Égypte. Joseph les pardonne de toute la méchanceté qu'ils ont eue envers lui et toute leur histoire est réglée. Bon, je résume, hein, bien sûr. À la fin, toute la famille, même son vieux père, se prosterne devant lui. Et à ce moment-là, il voit clairement les projets que Dieu avait déjà mis en place depuis son enfance. Ces projets se réalisent.
Quelle piste est-ce que tu nous proposes de tirer de cette histoire ?
Alors, mon attention est vraiment très attirée par le fait que Joseph, malgré tout, a gardé confiance en Dieu. Il a vraiment eu des occasions pour sombrer dans la solitude. Il avait vraiment toutes les raisons imaginables pour le faire et tout laisser tomber, finalement. Mais non, Joseph a appris très tôt qu'il valait la peine de garder confiance en Dieu.
Merci. Je me tourne maintenant vers Marilyn. Nous allons aborder un deuxième personnage de la Bible, cette fois une femme qui est en proie à la solitude. De qui s'agit-il ?
Eh bien, c'est encore une histoire un petit peu bizarre. Celle d'Agar, la servante de la femme d'Abraham, le grand patriarche. C'est aussi un récit qui se trouve dans la Genèse. Pour faire court, je vous résume ainsi. Donc, Dieu a fait à Abraham la promesse d'avoir une descendance. Mais comme la réalisation de cette promesse tarde, Sarah propose à Abraham de prendre pour femme sa servante Agar. Et puis que le fils de cette union soit considéré comme celui de Sarah et donc la descendance d'Abraham. Ça se faisait à l'époque quand les épouses étaient infertiles. Alors Agar est enceinte, mais la cohabitation avec Sarah se passe mal, elle est maltraitée au point qu'elle fuit dans le désert. Et elle y rencontre l'ange de l'Éternel, qui s'adresse à elle en venant comprendre la situation. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais là ? Il lui fait une belle promesse pour son fils. Il aura une grande descendance. Et l'ange lui donne même le nom pour l'enfant. Ismaël, Dieu entend. Et Agar doit retourner chez sa maîtresse. Ce qu'elle fait. Et la cohabitation se poursuit. Ismaël naît. Et Agar continue d'être au service d'Abraham et Sarah pendant... bien, en tout cas 10 ans. En tout cas 10 ans plus tard, voilà que le fils de la promesse, l'enfant de Sarah naît, c'est Isaac. Et puis, il y a la fête du sevrage du petit Isaac, quelques années plus tard. Et là, c'est le drame, parce que Sarah demande à Abraham de renvoyer Agar et son jeune adolescent, car le fils de la promesse est là, et ils ne peuvent pas hériter ensemble. Et Dieu confirme ça à Abraham. C'est la catastrophe. Voilà à nouveau cette mère, un peu contre son gré, elle n'avait pas prévu d'être mère comme ça, abandonnée dans le désert, seule avec son fils, du pain et sûrement une bonne provision d'eau, mais au bout d'un moment, ben, il n'y a plus rien. Et on nous raconte qu'elle attend la mort de son fils plus loin, parce qu'elle n'a pas envie de le voir mourir, parce que sans eau dans le désert, ben voilà. C'est un terrible tableau. Mais encore là, je suis touchée parce que l'ange de l'Éternel la rejoint de nouveau. Il vient de nouveau essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et il lui dit « Ne crains pas, car l'Éternel a entendu les cris de l'enfant. Lève-toi, prends ton fils, car je ferai de lui une grande nation. » Et il lui ouvre les yeux et elle voit un puits pour qu'elle puisse remplir sa cruche, donner de l'eau à tout le monde et se remettre en route. Son fils a eu une vie un peu particulière, tireur d'arc dans le désert, mais il a été préservé et béni comme promis. Et par son nom, toute personne qui l'appelle se rappelle que Dieu entend. Vous trouverez ce récit dans Genèse, chapitres 16 et 19.
Quelle piste tu nous proposes de tirer aussi de cette histoire ?
Ben, dans cette situation qui semble ne pas avoir été le plan initial de Dieu, comme une erreur de parcours d'Abraham et Sarah, Dieu va cependant prendre soin de cette mère et bénir son fils, qui est aussi le fils d'Abraham. Et puis l'ange qui vient la rencontrer par deux fois, cette maman isolée, seule, rejetée, il la rejoint dans sa situation, dans son désert. Et chaque fois, il lui demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, pour lui permettre de s'exprimer. Et puis il lui rend l'espoir, il la remet en route. Il l'a entendue, il l'a vue, il l'a relevée, il a pourvu à son avenir. Et cette expérience, et son expérience par rapport à Dieu, elle l'a résumée dans le nom qu'elle a donné à ce Dieu lors de sa première rencontre, le Dieu qui me voit. Que ça puisse être notre expérience.
Merci. Alors comme le disait Mildred tout à l'heure, il y a plein d'autres personnages bibliques qui ont vécu des périodes de solitude. On peut penser à Job, à Ruth, à Moïse. Le personnage que nous allons aborder maintenant, c'est David. David est en fuite. Il fuit le roi Saül qui souhaite le mettre à mort et le traque comme un voleur depuis des jours, des semaines, voire des mois. Et c'est dans une grotte que notre personnage trouve refuge, la grotte d'Aloulam, psaume 22, verset 1. Comment se fait-il que ce jeune berger ait des problèmes? Eh bien parce qu'il a reçu une onction de roi. Il a été désigné par Dieu pour être le futur roi d'Israël. Or, il y avait un roi en place qui était Saül et qui refuse cette décision parce qu'il veut garder son statut de roi, bien évidemment. Voilà la raison de cette traque. Donc David n'est pas le bienvenu, sa tête est à prix en Israël. Les moments de solitude, David va en vivre dans toute cette période de fuite. De la fuite pour sa survie. Beaucoup de questionnements aussi, beaucoup de peur. Il n'avait rien demandé, il n'avait rien choisi. Du jour au lendemain, il se découvre des ennemis nombreux. Lui qui était jeune berger, qui a connu le calme paisible de la garde des troupeaux dans des prairies. Lui qui a parfois bataillé de toutes ses forces contre des lions pour protéger son troupeau. Lui, le petit dernier d'une fratrie bien aimée de son père aussi. Ce jeune homme courageux qui a osé se battre contre un géant pour protéger son peuple. Eh bien, il est aujourd'hui un fuyard, un vagabond. Alors on pourrait se demander où est-ce qu'il trouve la force de tenir dans cette période de vie totalement injuste qu'il traverse. Eh bien, sa force vient de son Dieu et il prie. Quand tout va mal, il prie au cœur de sa solitude. Et on trouve ce texte, par exemple, dans psaume 25, verset 1, et puis un tout petit peu plus loin, au verset 16 à 21, « Seigneur, mon Dieu, je me tourne vers toi. J'ai confiance en toi, ne me laisse pas couvert de honte. » Et puis donc un peu plus loin, « Tourne-toi vers moi, Seigneur, aie pitié de moi, je suis abandonné et malheureux. Mon cœur étouffe d'angoisse de plus en plus. Délivre-moi de ma peur. » Vois mon malheur, vois ma peine, enlève tous mes péchés. Regarde mes ennemis, ils sont très nombreux, leur haine est violente. Protège-moi, délivre-moi. Tu es mon abri, ne me laisse pas couvert de honte. Je compte sur toi, garde-moi sans faute et toujours fidèle. Un peu plus loin, toujours dans le livre des psaumes, au chapitre 88, verset 18, on lit ceci. Tu as éloigné de moi amis, compagnons, mes intimes ont disparu. Partager sa solitude avec Dieu. Voilà ce qui peut faire une force, ce qui peut faire ta force. Et je t'invite toi aussi, toi qui traverses peut-être une période de solitude, à partager dans une prière ce que tu vis. Parce que Dieu est toujours disposé à entendre tes larmes, ta solitude, ce que tu veux bien lui partager. Thank you. David connaît Dieu depuis sa tendre enfance et il avait appris à faire confiance en Dieu. Parce qu'à certaines occasions, Dieu était venu à son secours. Voilà pourquoi il existe beaucoup de promesses dans le livre des psaumes. Et voici une promesse pour ta solitude. Psaume 68, versets 5 et 6. Dieu est un père pour les orphelins, un défenseur pour les veuves. Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls. Il libère les prisonniers dans la joie. Alors si aujourd'hui tu te sens seul, si tu as besoin du soutien d'une personne à tes côtés, je t'invite à t'appuyer sur cette promesse et à demander à Dieu de la tenir, de te donner une famille, de te donner quelqu'un à qui parler, un confident auprès de qui tu pourras déverser ce trop-plein que tu vis. Je me tourne maintenant vers David. Sous quel angle est-ce que tu aimerais aborder cette notion de solitude ?
Moi, je vais aborder la question de la solitude sur deux aspects différents de la solitude. La première, c'est que je pense que la solitude, elle n'est pas bonne, ça on est tous d'accord. Comme toi-même, Marina, tu l'as cité au début, que quand tu dis que Dieu a dit que c'est pas bon que l'homme soit seul, et donc il lui a créé une compagnie qui lui est semblable. Mais on voit qu'il n'a pas dit non plus qu'il n'est pas bon que l'homme passe des moments seul. Quand je parle de ça, je parle de physiquement. Pour comprendre la différence, on peut voir que l'état de solitude, moi je le vois plus comme un état de savoir que personne nous attend, personne nous aime, personne nous écoute, personne pense à nous. C'est pas vraiment le fait d'être physiquement isolé, mais plus qu'il y a rien en fait qui nous attend, qu'il n'y a plus rien. C'est fini, on est seul. Et voilà, c'est fini. Maintenant, passer du temps seul en restant dans un état de groupe, ça permet, comme il y a plusieurs exemples dans la Bible, il y a les exemples que vous avez cités, il y a Moïse aussi, il y a Jésus qui se retirait plusieurs fois quand même. Il y a beaucoup d'exemples qui parlent de ça. Et je pense que ça permet aussi de mieux se connaître, de grandir, de se rendre compte de plusieurs choses. Et qu'on voit que souvent aussi dans ces histoires, Dieu prend ces gens et les écarte aussi à un moment. C'est-à-dire que si c'était pas bon, pourquoi est-ce qu'il le ferait ? Il y a aussi cette réflexion à avoir, je pense. Mais c'est temporaire. Parce que si ça devient permanent, bah là, je pense qu'il y a un problème. Il n'aurait pas créé deux êtres au début. Parce que sinon, ça n'aurait pas été cohérent avec ce qu'il est en train de dire. Moi, je peux parler de ça aussi parce que j'avoue que je suis quelqu'un qui aime beaucoup passer des moments seul, physiquement. J'aime aller au ciné, aller au resto, aller au bowling, me promener, faire des choses où je suis tout seul. Je fais ma vie, je pense à moi, je pense à purée, mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? Ou je sais pas, j'ai plusieurs pensées qui me viennent par rapport aux autres aussi et comment j'affronte la vie. Et ces moments de solitude physique, elles me donnent énormément de force aussi pour affronter après les difficultés que j'ai en groupe. Mais ça veut dire que le but de cette solitude, c'est quand même le groupe. Donc c'est l'ensemble. Maintenant, je pense que c'est super important d'être bien entouré, dans le sens d'être entouré en général. Eh bien, bah, tant mieux, hein, si c'est mieux.
Et vaut mieux.
C'est important quand même, ouais. Et plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte à quel point les gens comptent. Mais maintenant, je pense qu'on devrait se poser quelques questions qui vont vers la même réponse. Est-ce que Dieu pourrait utiliser ces moments ? Car c'est bien ce que c'est, comme j'ai dit avant, que c'est des moments, c'est pas quelque chose que c'est infini, on va dire, pour nous améliorer, pour nous donner quelque chose, pour nous enseigner quelque chose, pour nous faire grandir, pour nous permettre de recevoir quelque chose qui va arriver de la meilleure façon possible, pour qu'on soit prêt et pour qu'on puisse profiter. Et une autre question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des moments dans la vie où on est vraiment seul ? En tout cas, entre nous, on croit en Dieu qui est omniprésent, qui est partout. Alors, est-ce qu'on est vraiment, même les plus solitaires d'entre nous, à un moment de notre vie, peut-être pas accompagnés ?
C'est intéressant ce que tu amènes, non ? Bah, a priori, si on est chrétien, on devrait dire qu'on est accompagné, parce qu'il y a Dieu qui est là.
Voilà, si on veut rester cohérent avec ce qu'on croit, Dieu, il est là, il est toujours avec nous. Moi, des fois, je peux avoir l'air d'un fou dans la rue aussi. Je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes, là ? C'est rigolo, je pense, vu de l'extérieur. Mais je pense que c'est une force qu'on a, de savoir qu'on a un Dieu qui nous aime, cette relation proche. Et on grandit ensemble, on avance ensemble. Il est là, c'est notre ami, c'est notre famille, il est tout. C'est-à-dire, c'est la compagnie la plus parfaite qu'il y a. Et vraiment rester sur cette idée aussi de dire que tous les moments qu'on passe seuls, c'est vraiment, on devrait le prendre comme une bénédiction, même si parfois c'est difficile. Il est en train de l'utiliser pour qu'après, si on se laisse utiliser de cette façon, on puisse vraiment profiter des choses qui viennent de la meilleure façon possible. Maintenant, j'aimerais juste finir avec un petit verset, Genèse 28, 15, qui reflète un peu cette idée. Ça dit « Et voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie fait ce que je t'ai dit. » Alors on pourrait se dire « Bon, il a dit « Il ne nous abandonnera pas jusqu'à », c'est-à-dire qu'à un moment, il va nous abandonner. Mais ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, c'est qu'on sera tout le temps ensemble. Il n'y aurait plus de mort, il n'y aurait plus de deuil, il n'y aurait plus de souffrance. Ça veut dire que le but de ça, c'est jusqu'à ce qu'il n'y ait plus tout ça, il n'y ait plus de solitude. Alors on sera toujours bien au final.
Merci. Merci David pour ce regard différent aussi que tu amènes autour de la solitude et qui peut nous donner un angle de vue autre que celui auquel on peut avoir l'habitude. Nous espérons en tout cas que ce temps de partage que nous avons pu avoir ensemble t'a permis, toi qui nous écoutes, de trouver dans ce temps particulier un regard bienveillant de Dieu sur ce chemin-là aussi. Et quelques clés pour traverser en tout cas cette période de vie, en te souvenant en tout cas que Dieu t'accompagne toujours où que tu sois.
Alors bienvenue maintenant dans la chronique Dieu dans les arts. Je voudrais vous présenter un livre-film que j'ai lu le livre et après j'ai vu le film. Je vous conseille vraiment de lire le livre parce qu'il est plus complet. Et ensuite, regardez le film parce qu'il est quand même bien fait. C'est La cabane de Shack en anglais. Et j'ai aussi trouvé une image et une bande-annonce qui disait Le chemin du pardon. Alors, vous pouvez le trouver, je pense, sous les deux noms. Mais le nom de base, c'est La cabane de Shack. Voilà, c'est la traduction. Alors, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Le film, bon, voilà, on prend tout. Hein. Dans le contexte du livre et du film, c'est vraiment une histoire qui apporte quelque chose de fort par rapport à la relation de l'homme avec Dieu. Ça commence, en vous faisant un petit résumé, c'est un homme qui... Bon, une famille qui perd la fille. Je ne vais pas vous dire comment exactement. Mais ils doivent vivre ça, ils doivent affronter ça. Moi, je ne suis pas père. Mais je ne sais pas si vous êtes tous parents ici ou pas.
Moi, oui, oui.
Mildred.
Et ceux qui nous écoutent aussi, il y a sûrement des parents. Et je pense que vous pouvez vous identifier aussi en imaginant des gens à qui vous tenez vraiment... Je ne sais pas si ça a le même lien que parental, mais voilà, essayez d'imaginer. Et ils doivent affronter ça. Et le père, il est complètement détruit. Mais complètement détruit. Et tout d'un coup, il reçoit une carte mystérieuse qui vient de Dieu et qui l'invite à venir le rencontrer. Et lui aussi, il a un passé un peu sombre avec sa propre famille, avec son propre père, c'est un peu sombre. Alors, est-ce qu'il va l'accepter ou pas ? Je vais vous spoiler un petit peu. Oui, il va y aller.
Merci, hein, voilà. Tu enlèves un petit peu de suspense.
Maintenant, est-ce qu'il va le rencontrer? Non, mais après, ensuite, ce qui se passe et comment ça se dénoue le tout, je trouve super intéressant parce que c'est d'une façon très réaliste aussi. Parce que souvent, dans cette vie, on imagine, je ne vais pas vous dire énormément, vous allez trouver bizarre ce que je vais raconter parce qu'il n'y aura pas vraiment un truc clair. Mais parfois, on imagine qu'il y a une fin comme on l'imagine, mais c'est pas tout le temps comme ça. Mais Dieu, il a quand même un plan. Et ça, c'est super important. Et ce film, on l'avait mis aux jeunes de l'église. Une fois, on avait fait une soirée. Et bon, il y avait aussi à manger. Alors à un moment, on a appuyé pause pour si quelqu'un voulait prendre un truc ou faire une petite pause, voilà. Et ça m'a même surpris de voir les jeunes avec les yeux rouges. Ça.
Ah ouais.
Tout le monde a pleuré,
touché.
Je sais pas si tous, mais ouais, on les voyait émus. Et j'ai trouvé vraiment cool. Après, c'est vrai que dans ce livre, il y a dans le livre et dans le film, surtout dans le film, j'ai remarqué ça. Peut-être le livre, ça va me passer comme ça. Mais il y a une partie que c'est vrai que moi, selon les écritures, on croit pas vraiment. C'est cette question de après la mort, est-ce que les esprits sont toujours là ou pas? Mais on n'y croit pas. Il y a une petite phase comme ça. Que c'est à vous de juger par rapport à ce que vous lisez avec ce qui est écrit dans la Bible. Mais le film, il vaut vraiment la peine d'être vu, le livre d'être lu. C'est super intéressant, il y a beaucoup de choses à apprendre, à connaître. Et ça remet en question plusieurs choses comme on les croit aussi. Alors maintenant, je vous laisse avec la bande-annonce. La bande sonore.
Allez, on se dépêche.
Bien essayé, petite crapule.
Tu portes une robe rouge comme moi. Papa, rouge ou bleu?
Alors, rouge aussi.
Missy, où elle est?
Messi!
Tu sais où est Missy?
Je l'ai pas vu, Max, je suis désolé.
Missy! Missy!
Ils ont fait chier là-bas.
On lui signale un suspect possible, un homme en camion près du barrage d'Inmar.
Je suis désolé, Monsieur Phillips.
Un coup de main pour déneiger?
Ça va aller.
On t'invite à manger ce soir?
Peut-être une autre fois.
S'il te plaît, pardon.
On a juste tellement perdu, toi et moi. Je ne veux pas risquer de te perdre, toi aussi.
Il y avait une lettre dans ma boîte, il n'y a pas la moindre trace dans la neige.
Attends, t'es pas en train de penser à y retourner?
Mais je peux pas rester sans rien faire.
Tu sais que tu aurais tort d'y retourner.
C'est complètement dingue. Et j'ai que cette lettre.
J'ai fait du feu, si tu veux te réchauffer un peu.
Mackenzie Allen Phillips. Oh là là, tu as grandi.
Est-ce que je vous connais?
Non, pas très bien. Mais on y travaillera.
Incroyable.
Il a encore des difficultés à croire que tout ça est vrai.
Pourquoi tu m'as ramené ici?
Y a pas de remède tout trouvé à ta douleur.
Au moment où j'ai eu besoin de toi, t'étais où?
Je ne vous ai pas abandonné, et je n'ai pas abandonné, Missy.
Tu veux que je pardonne à ce type? Je veux qu'il souffre. Autant que j'ai souffert.
C'est donc la promesse d'une vie sans douleur que tu veux? Ça n'existe pas.
Tu peux faire comme moi. Je sais bien que non. Ici, si, voyons, je suis là.
Nous allons t'apprendre à voler.
Peut-être t'es-tu déjà retrouvé dans l'une de ces histoires de solitude forcée ou recherchée, ou que la tienne est autre. Dieu nous connaît bien, alors déjà pour son peuple, il n'a pas hésité à le rassurer. Il l'invite à lui faire confiance et en même temps il le rassure, il s'engage pour lui. Comme nous dit cette promesse dans Deutéronome 31 au verset 15, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. » Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas, ne t'effraie pas. Quelle promesse, une présence fidèle. Alors, je t'invite à prier avec moi. Père Céleste, tu as dit à Israël et à chacun de nous que tu ne nous délaisseras pas, tu ne nous abandonneras pas. Tu es ce Dieu qui voit, qui entend. Tu sais qu'il arrive que nous nous sentions profondément seuls, isolés, incompris, effrayés dans des circonstances incroyables. Alors nous venons à toi. Je te présente mes frères, mes sœurs d'humanité, chacun de nous qui a soif, soif d'être rejoint, compris, rassuré, soif de sens, de présence. Seigneur, comme Agar, viens redonner l'espoir, remettre en route, pourvoir pour mon frère ou ma sœur qui est fatigué et à bout. Comme pour Joseph, viens consolider la foi, l'espérance et l'assurance. Pour David, comme pour David, qu'on puisse goûter combien ta présence est bonne, combien tu es fidèle. Et ouvre nos yeux sur les personnes ou les choses que tu mets sur nos chemins pour nous encourager. Ouvre nos yeux et nos cœurs pour voir comment rejoindre nos frères et nos sœurs humains dans leurs défis et leurs besoins. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Déloge ces solitudes qui nous minent. Trace un chemin dans nos déserts et mets des fleuves dans nos solitudes. Sois réel dans nos vies. Que nous puissions aussi être, nous, réels dans la vie de nos semblables. Au nom, le nom puissant de Jésus, je te le demande. Amen.
Amen. Amen.
Je conclurai avec cette promesse qui se trouve dans Ésaïe 41:10. Ne crains pas, car je suis avec toi. Comme mise en pratique pour cette semaine, je vous propose plusieurs exercices. Et oui, c'est le printemps. C'est valable que tu sois en situation où tu te sens seul ou pas. Pas d'excuses. Alors, dès cette semaine, prends des nouvelles d'une ou deux personnes que tu sais être un peu isolées ou seules. Et continue les semaines suivantes, avec les mêmes ou avec d'autres personnes. Un échange de messages sera déjà bien et le niveau supérieur sera un coup de fil. Pour prendre des nouvelles et discuter, pourquoi pas une petite activité en extérieur avec les normes sanitaires pour prendre le temps d'écouter, de leur consacrer du temps. Prendre du temps pour les gens et évaluer le temps qu'on a. Deuxième exercice, c'est pareil, c'est pour tout le monde. Prends un cahier, un crayon, note la date du jour et liste tout ce que Dieu a fait hier pour toi, pour se manifester, pour manifester sa présence pour toi au cours de la journée. Peut-être qu'il faudra demander à Dieu de t'ouvrir les yeux, parce que des fois, c'est vraiment pas évident, mais c'est très surprenant. Et cet exercice est à répéter chaque jour, et plus particulièrement les jours où tout est allé de travers. Et c'est là que c'est surprenant, et qu'on a besoin d'ouvrir les yeux. Lorsque vous demandez à Dieu de se manifester, attendez-vous à ce qu'il vous exauce. Et soyons capables de voir ses réponses lorsqu'elles sont arrivées. Et attention, parce que sa façon d'être présent peut être très simple. Ailleurs, ayons le cœur ouvert et la liste de ses attentions pourra fortifier notre foi.
Merci Marilyn pour ces deux exercices de printemps hein, qui vont, j'en suis sûre, nous permettre cette semaine d'apprivoiser la solitude, de l'accompagner, en tout cas cette solitude de quelqu'un d'autre, et en tout cas d'en faire quelque chose de positif. Alors voilà, nous sommes au terme maintenant de notre culte espoir du jour. J'aimerais vous dire à cette chère équipe du studio combien j'ai eu du plaisir à construire avec vous ce message. Voilà, merci à chacun d'entre vous, Marilyn, Mildred, toi aussi David, pour voilà, la richesse de ces échanges. J'espère, cher auditeur, que tu auras trouvé quelques pistes pour accompagner ta solitude, mais surtout que tu repartiras avec cette idée qu'il peut y avoir du bon dans ces périodes-là, hein, inattendues. Je te souhaite une belle marche avec Dieu sur ces routes de solitude parce que Dieu, lui, t'accompagne toujours. Sois abondamment béni et bonne semaine.
Merci à toi aussi, Marina.
Merci.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.